Pour commencer cette grande table, Antoine, retour sur une figure du cinéma et de la littérature, mais particulièrement sulfureuse, auquel la Comédie française consacre une exposition et une rétrospective à compter d'aujourd'hui. Cette figure, c'est celle de Pier Paolo Pasolini. Et notre invité est un écrivain et critique littéraire italien, Emanuele Trevi. Bonjour.
Bonjour à vous.
Merci. Et bienvenue.
E chi ce l'ha i documenti? Io mo ricordo come mi chiamo, che ce devo fare con i documenti?
Favorisca il documento.
E perché?
5 minuti per accertamenti, via.
Su 3 milioni di abitanti che siamo a Roma, proprio su De Mere che fa accertamenti. Si vuole un caffè?
Avanti, andiamo, non fare il cretino.
E là si è messo un braccio, metti giù le mani.
Non fare tante storie. Prima vieni e prima finisci.
Cet extrait d'Acatone et Emanuele Trevi, premier film de Pasolini en 1962, peut-être pour donner à entendre un peu d'italien à nos auditeurs, puisque vous avez très gentiment accepté de parler dans notre langue, en français. On va vous entendre avec votre merveilleux accent. Et puis au cas où quelques mots viendraient à vous manquer, parce que c'est du direct, eh bien votre traductrice Marguerite Pozzoli est assise à côté de vous. Bonjour et bienvenue, madame.
Bonjour.
Vous avez donc traduit ce livre de l'italien, quelque chose d'écrit.
Elle a traduit splendidement. Je dois dire que je préfère lire les livres dans la traduction. C'était réellement un songe qui s'est réalisé.
Et c'est un livre qui est apparu en français aux éditions Actes Sud, qui a reçu le prix du livre européen à Francfort en 2012 et puis qui a reçu un prix italien, me semble-t-il, le prix Boccaccio.
Oui. Ce prix est dédié à ce grand écrivain que Pasolini aimait beaucoup et il a dédié un de ses derniers films au Decameron de Boccaccio. Et donc, ils ont pensé de me faire l'honneur de donner un prix à mon livre. Alors, c'était très intéressant parce que c'était dans la maison de Boccaccio et donc c'était comme réellement, comment on dit en français, moyenâgé.
On le dit comme ça, tout à fait, hein, Marguerite, on le dit comme ça. Emanuele Trevi, c'est un drôle de livre que ce quelque chose décrit. Un livre qui est à la croisée du roman, de l'essai, du récit autobiographique, même de l'archéologie d'une œuvre, puisque vous revenez sur le roman inachevé de Pasolini, Pétrole, qui est apparu en 1992 en Italie et 3 ans après en français, traduit par René Tzekati. Oui. Quel a été le point de départ de ce livre-là pour vous? Quelque chose d'écrit.
Les points de départ de ce livre, c'était un boulot. J'ai travaillé dans l'archive dans
le fonds Pasolini.
Le fonds Pasolini qui était à Rome, maintenant a été transféré à Bologne. Et je me suis confronté avec une situation qui aujourd'hui n'existe pas plus dans la littérature parce que l'écriture digitale, numérique, on rate toutes les variantes, les idées qu'on ne poursuit pas plus, et donc il n'y a plus pas de traces du procès d'élaboration de l'œuvre. Pasolini, en particulier, écrivait tous les jours, écrivait beaucoup, produisait il s'est laissé derrière soi une montagne de papier. Et donc, c'était très... c'était un travail merveilleux parce que j'étais fasciné de du procès d'élaboration plus que du produit
du parfait. Contenu lui-même. Oui.
Et sa dernière œuvre possède une espèce de paradoxe parce que Pasolini voulait écrire un faux fragment. Quelque chose qui fut semblable à les Satyricons de Petron, duquel on possède seulement des morceaux. Mais là, les conditions réelles de sa mort, de l'assassinat, la mort
1975.
Soudaine, la mort, ont créé un effet de miroir. Il voulait bâti en fragment, en fausse fragment, et nécessairement l'œuvre est devenue un fragment. Et donc, on ne comprend pas exactement la part de la volonté de l'auteur à achever une œuvre qui se veut montrer pas achevé, et la condition réelle de l'impossibilité d'achever son projet parce qu'il était assassiné.
Alors vous avez achevé votre projet, quelque chose d'écrit. Vous disiez que le point de départ était que vous vous étiez retrouvé au fond Pasolini. On est en 1994, dans votre livre en tout cas. Le narrateur, qui donc peut être vu comme vous-même, Emmanuel Etrévy, est au fond Pasolini, un fond qui a été créé par la gardienne du temple, amie de toujours, amie intime de Pasolini, qui fut sa comédienne fétiche, qui est Laura Betti, qui a joué dans Théorème, qui a joué dans Oedipe Roi, qui a joué dans Les Contes de Canterbury ou dans Caprice à l'italienne. Elle a ouvert ce fonds Pasolini, elle vous a engagé et vous étiez chargé de préparer un livre recueillant toutes, en tous les cas vous le narrateur, hein, recueillant toutes les interviews données par Pasolini. Oui. C'était ça le point de départ.
Oui, oui, parce que Pasolini considérait l'interview comme une forme d'art. Et donc, il y en avait beaucoup dans l'archive. Et on peut imaginer qu'on travaillait dans son archive soit un des plus tranquilles des activités de travail qu'on puisse faire.
Oui, vous travaillez solitaire.
Je ne connaissais pas, je connaissais Laura Betti comme actrice, comme chanteuse, parce qu'elle a été une grande chanteuse.
Vous avez découvert la femme.
J'ai découvert la femme, la folie de la femme, et aussi j'ai découvert une histoire d'amour réellement tragique. Mais c'était pas la première impression, c'était la plus facile, mais c'était erroné, c'était fausse. Et l'impossibilité de cet amour était était engendrée de l'homosexualité de Pasolini, la femme qui aime. Mais il y a beaucoup de amours errés entre une femme et un homosexuel. Et ce n'était pas ça la raison de toute cette malheur. Les malheurs naissaient du fait que Pasolini ne pouvait pas avoir envers elle des sentiments si forts, si profonds, si fidèles. Et donc, il y avait un déséquilibre qui, au moment de la mort, a explosé dans
pour
une
elle.
Sorte de folie. Elle pensait qu'elle était la seule personne capable d'entendre le message de Pasolini, et donc elle devait contrôler tous les actes d'interprétation. Et donc, ce n'était pas une œuvre de conservation d'études, mais c'était une bataille.
Qui l'impliquait, elle, personnellement. Oui. Écoutez-la parler de cet amour. Emmanuel Etrévy, Laura Betti, au micro de Marc Voinchet, c'est une archivina de 2002.
La couple est née parce qu'il y avait, parce que nous étions une couple, c'est tout. Elle est née parce que je crois qu'on avait l'air d'une couple sans l'être. Il n'y avait rien de moins logique qu'une couple formée par moi et lui. Et en même temps, on était une couple. Voilà. C'était comme si chez nous, si de nous ça dégageait un rapport très fort, un rapport d'amour.
Cet amour très fort, vous en écrivez quelque chose dans quelque chose d'écrit, Emmanuel Etrévy.
Quand j'étais très jeune, quand j'ai connu Laura Betti, et donc l'idée que je m'étais
représentée d'elle, oui.
Et que tous les amours, les amours réels ont une partie de profond malheur, et les malheurs est la conséquence du fait qu'on n'est jamais dans un équilibre, on n'a jamais une justice. Et donc, il y a quelque chose qu'on peut nommer l'esclave et le maître. Ce n'est pas une prérogative d'un sexe plutôt que d'un autre. Le déséquilibre ne s'arrête à être une situation. Le déséquilibre engendre un peu de violence.
Oui, mais du coup, c'est comme si dans votre livre à vous, dans quelque chose d'écrit, on pouvait lire qu'elle avait transformé, quand vous travailliez au fond Pasolini, cette relation de maître à esclave ou déséquilibrée qu'elle avait au sein du couple qu'elle formait avec Pasolini, sur vous. Parce que vous la surnommez assez discrètement la folle, en tous les cas dans votre livre. Mais en revanche, elle vous l'a bien rendu, puisqu'elle vous surnommait ouvertement la petite pute. Et, oui. Et vous montrez quand même une femme extrêmement méchante, hein, cruelle.
Oui, elle était méchante. Elle était méchante.
Bon, elle était méchante, vraiment.
J'ai écrit un livre que je considère ce livre un acte d'amour, parce que j'étais folle d'elle, mais elle était vraiment méchante. Et la méchanceté...
Il y a beaucoup de tragédie et de tendresse, oui.
La pire méchanceté, c'est celle qui est capable toujours de comprendre les talons d'Achille. Elle ne disait jamais des injures qui ne puissent blesser l'adversaire. Et j'étais l'adversaire pour définition, parce que j'étais l'incarnation de tout ce qu'elle haïssait et qu'elle aimait dans Pierpaolo Pasolini, parce que j'étais un jeune homme. Elle pensait que j'étais très ambitieux, que ma volonté d'être un écrivain, c'était quelque chose qui regardait ma vie mondaine. Et elle avait raison, parce que quand on est jeune, on est ambitieux, on veut du succès. Et donc, elle riait beaucoup de ça. Tu veux être un écrivain, ça c'est incroyable. Et Pierpaolo te cracherait dans la face si l'histoire c'est un de tes livres. Et donc, c'était une expérience de découragement pour moi, qui c'était très bienheureuse, parce que stimulante, parce que je n'ai pas changé de caractère, je n'aime pas les conversions. Parce que je suis de l'idée que les autres ne peuvent pas changer l'être profond. Mais l'existence d'un autre point de vue est très précieuse. Dans les moments dans lesquels on vit dans une condition d'apprentissage.
Alors, cette expérience bienheureuse ou stimulante, Emmanuel Etrévy, on peut la lire dans Quelque chose d'écrit, qui est un livre très personnel, puis qui revient sur cette expérience. On peut lire aussi dans ce livre le portrait donc de Laura Betti, cette femme formidable actrice de Pasolini, et cette femme devenue très méchante et que vous surnommez la folle. Et il y a un troisième aspect, sans doute le plus important, non pas en termes de hiérarchie dans votre livre, mais qui ressort vraiment, c'est donc ce récit, cette archéologie d'une œuvre inachevée qui a été Pétrole, roman entrepris 3 ans avant sa mort, hein, en 1972, et qui est à la fois un poème épique, un brûlot politique, une œuvre limite sur la représentation. Écoutez ce qu'en dit René Tsekati, qu'il a traduit en 1995 en français. C'était sur France Culture et c'est une archivina.
On est tenté, comme surtout la critique italienne l'a fait, de lire ce livre comme un éclairage extraordinaire sur sa vie personnelle et surtout sa vie sexuelle, parce que la partie sexuelle est extrêmement importante dans le livre. Mais en réalité, il faut être beaucoup plus prudent, parce que Pasolini ne se décrivait pas lui-même. Il avait quand même un regard critique sur un personnage qui en très grande partie était son contraire, puisque Carlo, c'est la raison du titre Pétrole, Carlo est un ingénieur qui travaille dans une société de pétrole, ce qui justifie anecdotiquement le fait qu'il voyage à travers tout le monde, puisqu'il fait des recherches à travers tout le monde, et il est impliqué de plus en plus lourdement dans un système de corruption.
Alors ça, c'est l'interprétation principale qu'on a faite de Pétrole, hein, Emmanuel Etréville. Oui. Votre interprétation est différente, c'est-à-dire que il y a eu beaucoup d'interprétations de ce livre, notamment donc, comme on l'entend à l'instant dans la bouche de René Tsekati, politique, puisque pour écrire ce livre-là, Pasolini avait enquêté sur les liens entre le pouvoir et la mafia, en particulier sur la mort mystérieuse d'Enrico Mattei, qui était l'ancien président de cette société pétrolière Eni. Vous revenez sur cette interprétation. Mais la vôtre est plus poétique. Vous en faites un livre provocateur. Vous dites que c'est comme une provocation, une confession, une exploration, évidemment un testament, et puis une mort en action. Est-ce que vous pouvez développer cette
idée?
Oui,
je suis d'accord avec René de Tsekati. Le personnage principal de cette dernière œuvre n'est pas un autoportrait de Pier Paolo Pasolini. Et ça, c'est très important. Et je dois dire que les traducteurs comprennent les livres mieux que les critiques parce qu'ils travaillent mot à mot.
Dit Marguerite Pasolini qui a traduit le
l'équivoque vôtre. On trouve dans les livres des critiques sur ce sujet, parce que la lecture du critique est plus vite, plus superficielle, nécessairement de la. Et donc, ça c'est exact. Je ne sais pas qu'est-ce que pense René de Tsekati de ça, mais en Italie, il y a une légende noire qui regarde la mort de Pasolini. Pasolini est mort sans achever
l'écriture de ce livre.
Nous l'avons raconté. Mais je ne pense pas qu'il soit possible de suspecter qu'il soit mort pour quelque chose qui était écrit dans Pétrole. Parce que les informations sur les liens du pouvoir financier et de la mafia et les autres mystères d'Italie, l'histoire d'Italie et l'histoire des mystères, comme l'Italie est très semblable à l'Italie d'Alexandre Dumas, réellement, il y a les secrets, tout ce que Pasolini écrit, et dérive littéralement des articles publiés sur des journaux, des importants journaux qui sont l'équivalent du Nouvel Observateur ou de Libération en France, pour donner l'idée. Il avait un archive et il coupait les articles et il les conservait dans une chaise et on peut les lire à Florence. Ils sont conservés dans la ville de Florence. Et donc, si quelqu'un voulait assassiner pour les vérités, il aurait assassiné les journalistes. En plus, Pasolini changeait les noms, à différence de la presse qui parlait des noms réels. Pasolini a changé les noms périllés, et donc c'est encore plus impossible. Mais il reste un mystère, parce que en lisant la consécution de chapitres, les nombres, il y a il passe pour exemple de 23 à 27. Et donc, on peut se demander où sont.
Oui, c'est un livre très fragmentaire, c'est un livre qui n'est pas linéaire.
Je pense que soit très difficile d'hypothéser, comme a été fait, que des agents du service secret italien ont volé. Seulement les chapitres qui on devrait imaginer une figure d'espion philologue qui est allé chez Pasolini les jours immédiatement après sa mort et a fait si c'était vrai il aurait volé tous les manuscrits. Comment possible qu'il était capable de trouver les pages périlleuses?
Qu'est-ce qui vous a plu, vous, Emmanuel Etrévi, dans ce livre, dans Pétrole? Qu'est-ce qui vous semble stupéfiant?
Pour moi, le caractère stupéfiant est le traitement du personnage. parce que le personnage de Pétrole devient D dans la première page du roman. Carlo, c'est un ingénieur, nous l'avons entendu de la voix de René de Secati, et Pasolini pensait que les doubles étaient Don Quichotte, Sancho Panza, Mr. Jekyll, Mr. Hyde, Jekyll. Les doubles, c'était le sommet de l'art littéraire, la chose plus profonde que l'art littéraire avait dit à propos de la nature humaine. Mais il dépassa soi-même cette idée, parce que les deux personnes qui sont les fruits de ces redoublements deviennent des femmes. Et donc, le double engendre un autre prodige. Et c'est le prodige le plus important de l'œuvre, de cette œuvre que Pasolini nommé quelque chose d'écrit, parce qu'il ne voulait que dire qu'il était un roman, un poème. Et parce que dans la condition des femmes, les deux personnages comprennent des choses sur la nature de la réalité, aussi sur la nature politique de la réalité, que leur condition de mâle était comme une forme d'aveuglement. Et donc, il y a une mystique du changement de sexe, qui est un thème mythique, lié étroitement au thème de la connaissance.
De la révélation, même, oui.
Oui, la révélation, la connaissance, la lumière de la connaissance qui arrive seulement après la mort symbolique qui est la chute de la première identité sexuelle. C'est un prodige qui a un temps, et n'est pas permanent. Les deux femmes, la chose la plus amusante est que on a dit dans les premiers comptes rendus que les fameux épisodes pornographiques étaient épisodes d'amour homosexuel.
C'est vrai que ce livre a causé vraiment scandale, notamment sur les pages sexuelles. Vous parlez des notes, de la note 55 en particulier, effectivement. Pardon, je vous écoute, je vous ai interrompu, je voulais juste préciser ça.
Oui, non, ce n'est pas amour homosexuel, parce que si on lisait tous les livres, les scènes d'amour passent après la transformation en femme. Ils se transforment en femme et ils sont curieux d'expérimenter l'amour avec le mâle. Et dans cette expérience, ils comprennent des choses.
Ce matin, 6h30, un couple découvre le corps de Pasolini, horriblement mutilé, sur un terrain vague d'un bidonville d'Ostie, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Rome. Le metteur en scène a, semble-t-il, été tué à l'aide d'un pieu en bois, et une voiture lui est passée à plusieurs reprises sur le corps. Selon les médecins, l'assassinat remonterait entre 22h30 et minuit.
Donc Pasolini a été assassiné le 2 novembre 1975, on l'entendait là dans une archivina du journal d'Inter Actualité. Un accusé a été inculpé, Pino Pelosi, dit Pino la rana, Pino la grenouille, vous y revenez Emmanuelle Trévi dans votre livre. En même temps, depuis quelques années, des nouvelles révélations ont été faites. On sait où on en est aujourd'hui de cette mort mystérieuse?
Donc on doit comprendre une chose, qui est dans le droit italien, et je pense aussi dans le droit français, mais je ne voudrais vous me corriger, et parce que c'est un peu la base de la perte de vérité. Et Pino Pelosi, qui est l'unique coupable dans le degré de les trois procès qu'on a fait, a été condamné, mais la peine était très légère, parce qu'il était jeune homme, un mineur. S'il avait dit qu'il y avait des complices, et sûrement, le caractère du crime serait complètement différent. Il y avait une association pour commettre un crime qui aurait empiré sa situation devant le juge. Et donc, il a légitimement enseveli la vérité pour se défendre. Oui.
Fondali vecchie Fra mille cose finte, la mia vita sfiorì. Castelli in carta pesta, bei cieli in tela blu, ormai più nulla resta della fiaba che fu.